Chapitre 82. Le silence règne, et la lueur atténuée des lampadaires baigne toute chose d'un scintillement sombre. Saga s'approche d'Oak Lodge, la résidence pour adolescentes et jeunes adultes, s'arrête et tend l'oreille. Juste au moment où elle s'apprête à poursuivre son chemin, une lampe s'allume derrière une des fenêtres. La lumière se projette comme une tour renversée sur le gazon fraîchement tondu. Saga se déplace doucement sous un grand feuillu. Elle marche sur une branche qui casse et émet un petit bruit sec. Une femme nue se montre à la fenêtre. Elle ne doit pas avoir plus de 20 ans. Son visage pâle reste tourné un moment vers la nuit, puis elle repart dans la chambre en chancelant. Saga attend un petit moment, puis traverse la pelouse et rejoint l'allée qui mène à la résidence de Grace. Elle ne se rend compte que maintenant que son jean est trempé jusqu'aux genoux. En arrivant à hauteur de l'atelier de peinture, elle entend ses pas résonner faiblement contre la façade. Elle compte raconter à Grace que Rex n'a pas participé au viol, qu'il est resté enfermé toute la nuit. Cela l'aidera peut-être à retrouver ses souvenirs, et elle pourra être plus précise sur ce qui s'est passé. Avec un peu de chance, elle pourra même désigner l'inconnu du terrier de lapin dont Juna a parlé. Saga s'arrête près du mur et observe l'eau d'une descente de gouttière s'écouler par une grille d'évacuation. Puis elle continue jusqu'à l'angle du bâtiment quand elle entend quelqu'un pouffer derrière elle. Elle se retourne. Une femme en chemise de nuit fine se tient là, sa perruque blonde à la main. « Ma petite poupée !» s'exclame-t-elle toute surprise en affichant un grand sourire. Son visage est étrangement candide. Ses mimiques imprévisibles. Saga se déplace discrètement, mais la femme la suit.
J'ai été obligée, Megan,
poursuit-elle avec une mine triste.
Grand-père a dit que je ne pouvais pas te garder.
Je crois que je te promets,
insiste-t-elle d'une voix sévère. Tu n'as qu'à lui demander. Il est là-bas, sous l'arbre. Très agitée, elle pointe un doigt vers les ombres du parc. « D'accord, » lance Saga, et elle tourne la tête dans la direction indiquée par la femme.
« Oh, il vient de se cacher. »«
Il faut que j'y aille, » dit Saga doucement.
« Viens avec moi, »
siffle la femme.
« On va voler ensemble. Les crânes ensanglantés. On va se précipiter à travers la forêt. »
Saga tourne les talons et longe la façade. Elle jette un rapide coup d'œil par-dessus son épaule et constate que la femme n'a pas bougé de l'allée. Elle traverse en courant un espace dégagé pour s'éloigner des ateliers et arrive à la résidence où elle a rencontré Grace la première fois. La lumière est allumée dans l'entrée, mais toutes les fenêtres sont éteintes. Saga s'avance jusqu'à la porte qui est fermée à clé. Elle regarde par la vitre, voit la salle de séjour plongée dans l'obscurité et le distributeur de friandises qui, lui, est allumé. Un bruit étrange derrière elle, comme des pieds nus sur un sol mouillé, la fait frissonner et elle se retourne. Il n'y a personne. Tout est silencieux. Le goudron dans la lumière statique, le lent scintillement autour d'une grille d'écoulement et le parc avec ses feuilles trempées de pluie. Saga contourne le bâtiment, traverse la pelouse, s'approche d'un banc près d'un gros rhododendron, s'arrête et compte pour trouver la fenêtre de Grace. Quelqu'un éclate d'un rire fébrile. Elle se glisse dans les ombres et voit la femme avec la perruque se cacher derrière un arbre et lui faire un signe de la main. Saga ne bouge pas. La femme se tourne dans une autre direction avec un sourire, se frotte énergiquement le nez et disparaît dans le parc. Rapidement, Saga tire le banc contre le mur, le pousse sous la fenêtre, grimpe dessus et essaie de voir à l'intérieur de la chambre de Grace. Entre les rideaux, elle distingue une table de chevet avec une boîte à musique en porcelaine. Elle a à peine le temps de deviner le personnage qui arrive à toute vitesse derrière elle, qu'elle sent un choc violent dans les reins, comme la morsure d'un chien. Ses jambes se dérobent, et elle tombe sur le côté, se cogne les côtes aux accoudoirs du banc et pousse un gémissement.
Une douleur cuisante irradie son dos et son corps tressaille de façon incontrôlée. Saga ne se rend même pas compte qu'elle glisse en bas du banc. Elle ouvre les yeux et fixe le ciel pluvieux en se disant qu'elle a dû s'évanouir. La vive douleur fuse de nouveau, comme de rapides coups de pied dans son flanc. Sa vue se brouille, mais elle sent qu'on la traîne par les jambes sur le goudron de l'allée, puis sur l'herbe mouillée. Saga cherche sa respiration et voit Marc, le gardien, se pencher sur elle, le pistolet à impulsion électrique à la main. Il respire lourdement et la fixe d'un regard nerveux. Elle tente de lever une main pour le tenir à distance, mais ses muscles ne lui obéissent pas.
« Je suis un grand garçon gentil, mais les règles m'imposent de vérifier si t'es armé. »
Le cœur de Saga commence à battre fort quand il baisse la fermeture éclair de sa veste. Il trouve son téléphone et le balance droit sur le tronc d'arbre le plus proche. L'appareil se brise et les morceaux s'éparpillent dans l'herbe. Il se penche de nouveau sur elle et glisse sa main froide sous son pull, la passe sous l'armure du soutien-gorge et lui pince fort les mamelons.
« Rien par là, » murmure-t-il en retirant sa main.
Il respire fort, la bouche entrouverte, plaque le pistolet contre le cou de Saga et ouvre son jean. Elle parvient à lever la main droite pour attraper la manche de son uniforme et tirer sans force.
« Arrêtez !» siffle-t-elle. « Je suis obligé de chercher des armes dissimulées, » dit-il en déglutissant.
Marc est en train de baisser le jean et la culotte de Saga lorsqu'on le contacte via la radio. Il s'appuie de la main sur sa poitrine et pousse tellement fort en se levant qu'il lui chasse tout l'air des poumons.
« Nous avons une intruse, faites venir la police », précise-t-il en allant se placer sous un lampadaire.
Saga essaie de remonter son pantalon quand elle voit deux gardiens accourir entre les bâtiments. Deux infirmières de nuit alarmées s'approchent depuis le côté opposé.
Chapitre 83. Le lendemain de l'arrestation d'Oscar von Krutz sur l'île de Böllerön,